Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France pour une émission un peu particulière. Comme vous le savez, dans C'est ça la France sur Sud Radio, on met en avant les entrepreneurs qui font le pari de la fabrication française. Et on a souhaité donner la parole aux artisans en France qui voient leur activité fortement impactée par les conséquences de la guerre en Ukraine. Envolée des prix, augmentation des charges, tensions sur les trésoreries pour certains d'entre eux. Bref, on entre dans une période pas très simple. On en parle avec eux tout de suite et en deuxième partie de cette émission, nous donnerons la parole à Joël Fourny, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat. Les CMA dans les différentes régions de France sont à l'écoute des artisans impactés par la crise ukrainienne et nous dira de quelle façon, justement, ils les accompagnent. Allez tout de suite, direction la Normandie.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec François Calandeau de la cidrerie de la Brique. Bonjour François.
Oui, bonjour à tous.
Alors là, on est à Saint-Joseph, dans la Manche. Alors c'est vrai, on sort d'une pandémie, maintenant on a la guerre en Ukraine, en Russie, avec la Russie, donc c'est assez compliqué. Comment vous ressentez-vous justement en tant qu'artisan, et vous êtes donc à la tête d'une petite PME qui fabrique du cidre, comment vous ressentez cette crise ukrainienne justement ?
Oui, bah alors tout à fait. Je suis patron d'une PME hein, qui dépend de la Chambre des métiers de l'artisanat de 8 salariés. Notre métier, c'est faire du cidre avec des pommes de Normandie. Donc ça, c'est pas un problème pour la pomme. Mais
la matière première, elle est là. En tout cas, au niveau des pommes.
La matière première, elle est là. Donc moi, j'ai pas ce souci-là que peut avoir d'autres personnes. Par contre, à l'inverse, je commerce. Je fais un peu d'export et je commerce avec la Russie et aussi depuis peu avec l'Ukraine. Donc c'est vrai que la conséquence, là, je l'ai directement parce que depuis un mois et demi maintenant, les relations commerciales sont plus compliquées avec la Russie.
Ressent au niveau des exportations. En direction de ces deux pays.
Oui, tout à fait. Ouais. J'exporte à peu près 15% de ma marchandise part vers l'export, vers l'étranger. Et la Russie, c'est 2% de mon chiffre, hein, donc c'est pas négligeable. Ouais. Comme vous venez de le dire, après une période où on sort de 2 ans de période qui peut être un peu compliquée quand même, et ça rajoute encore quelque chose qu'il faut savoir gérer. Quoi.
Et à côté de ça, il y a la hausse des matières sèches également.
Oui, la conséquence directe, c'est un gel de nos, pour l'instant, un gel de nos ventes à la Russie. Et les conséquences peut-être indirectes, c'est moi, je suis gros consommateur de bouteilles de verre. Certes, elle est fabriquée en France, mais pour chauffer une bouteille de verre hein, avec du verre recyclé, faut chauffer à 1600 degrés et pour chauffer, il faut de l'énergie. Donc,
mécaniquement, ça consomme beaucoup d'énergie et le prix a augmenté. Ouais.
Et le prix de nos bouteilles a augmenté, avait déjà augmenté au moins au début janvier, parce que comme vous le savez, ça avait quand même pas mal augmenté dernièrement. Et là, ça a réaugmenté, donc c'est encore une autre chose, c'est encore une autre conséquence directe hein, sur de la matière sèche. Et c'est quelques centimes et multiplié par un nombre de bouteilles conséquent, à la fin, ça va impacter nos trésors.
C'est quoi ? On peut le chiffrer sur l'année ? En termes de hausse ?
Oui, moi je pense que si aujourd'hui je n'augmente pas mes prix. À mon consommateur final, c'est 30 000 euros de moins juste sur 4 centimes d'augmentation sur une bouteille de verre. À la fin, c'est 30 000 euros de rentabilité en moins pour l'entreprise. Donc, il va falloir que je trouve ailleurs, ou alors il va falloir que j'impacte le consommateur. Sauf que le consommateur, il a déjà subi des hausses un petit peu en début d'année. Après, si vous vendez en grande distribution, vous avez des accords annuels, donc c'est compliqué de revenir sur ces accords-là aussi. Alors même si ça réouvre un tout petit peu en ce moment, mais c'est l'objet de discussion. Mais après, encore au final, on peut pas non plus demander tout au consommateur final. On doit aussi, on va devoir absorber ces hausses et essayer de trouver d'autres solutions de gestion, on va dire, pour garantir que qu'on arrive à s'en sortir et qu'à la fin de l'année, on est passé cette crise comme on l'a passé on a passé le Covid en 2010 et en 2011.
Oui, ce qui est compliqué, c'est un peu comme pour cette pandémie, on n'a pas de visibilité, quoi. Donc cette situation, elle n'est pas tenable sur le long terme pour une petite PME.
Ouais, bah, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que voilà, je suis consommateur de bouteilles de verre et de carton, hein, tout simplement les cartons d'emballage, hein, pour mettre mes bouteilles dedans. Et pour vous donner un ordre d'idée, le carton, c'est, on en est à notre 5e augmentation en 7 mois. Donc il y a un moment donné, bon, ouais. Puis une augmentation annuelle, c'est tout à fait normal et c'est la vie d'une entreprise et des fournisseurs. Bon, 5 augmentations en 7 mois, il y a un moment donné, on se dit aussi, ouais, mais où ça s'arrête, quoi.
Où ça, c'est du jamais vu dans votre carrière,
bah,
dans
globalement,
votre vie d'entrepreneur.
Non. Alors moi, dans ma vie d'entrepreneur, non, parce que ça fait que 4 ans que je suis à la tête de mon entreprise. Après, non, c'est du jamais vu. Je pense que c'est du jamais vu. Moi, je suis né à la fin des années 70. Bon, il y a eu les chocs pétroliers dans les années 70. Je pense que ce qu'on vit, c'est décuplé par rapport à ce qu'on a vécu dans les années 70, quoi.
Et du coup, ça impacte votre travail au quotidien? Ça vous demande peut-être d'être plus vigilant sur certaines choses?
Ouais, tout à fait. Bah, le mot, c'est vigilant, c'est-à-dire que bah, on doit faire attention. On doit faire attention au quotidien sur. Bah voilà, il faut. Il faut pas que je casse des bouteilles de verre, quoi. Ouais, faut pas que je casse des cartons.
Le verre est devenu ultra précieux.
Oui, bah le verre est devenu précieux. Le carton aussi. Je veux dire, je reçois aussi, des palettes, oui, entières de carton. Il faut pas qu'une palette prenne l'eau, quoi. Parce que tout de suite, ce qui avant nous paraissait pas très cher, bah commence à devenir important. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Il faudra peut-être aussi. Moi, je vends mon cidre en grande distribution aussi pour partie. On anime commercialement des fois la grande distribution. Bah peut-être qu'il va le falloir, entre guillemets, moins animé, parce que bah, ce qu'on pouvait se permettre avant en promotion, on peut peut-être plus se permettre, quoi. Donc ouais. Voilà, c'est des réflexions à court, moyen, long terme. Après, pour l'instant, j'ai pas peu de crainte sur l'activité. Je pense qu'on, comme dans le bâtiment, il y a du boulot et les gens.
On continue de consommer du cidre, on continuera à en consommer.
Ouais. Voilà, ça s'est un peu freiné quand même, mais je suis plutôt confiant par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand une personne met déjà 250 € par mois dans son plein d'essence, tout ce qui est plaisir, loisir et autres est forcément un petit peu diminué. Donc ça va forcément aussi nous impacter. Donc voilà, derrière c'est pas évident de se projeter, quoi. Donc est-ce qu'on doit recruter ou pas? Est-ce qu'on se dit bah on tâtonne un peu et on attend que ça alors, on attend de voir. Voilà, c'est un peu c'est des questions qui sont un peu
en suspens, ouais. Comme ça, quoi.
Ouais, ouais, complètement. Ouais,
et vous êtes une équipe de combien aujourd'hui? Vous avez dit 8 personnes,
ouais,
c'est ça?
Ouais, 9 salariés, 9 ou 10, ça dépend les périodes. Moi, j'ai 2 alternants qui terminent leur contrat en apprentissage fin août. Clairement, ils m'ont bien aidé. Il faut que je rembauche l'an prochain, mais voilà. Encore une fois, est-ce que je le fais ou pas? Je me pose la question. Sachant qu'on ne sait pas trop où on va. Voilà. Après. On sort d'une crise Covid et je m'en suis plutôt bien sorti. Et il y a 2 ans, fin avril, la France était à l'arrêt. Et on se disait, bah c'est bon, la boîte va couler. Et finalement, en 4 mois d'été, les gens ont consommé, les gens se sont fait plaisir sur leur lieu touristique. Ils ont bu du cidre. En ce qui me concerne, sur les plages normandes
et bretonnes, sûrement.
Ouais, c'est pas le mien en Bretagne, hein, mais les gens ont reconsommé, donc ça peut repartir aussi vite. Hein, c'est ça, il faut pas non plus être défaitiste, hein, ça peut repartir très vite, et on en a eu l'exemple les 2 dernières années, donc faut rester confiant.
Alors,
quand même.
Vous l'avez rappelé, vous êtes à la tête de votre PME depuis 4 ans, bah décidément, vous en avez vécu de ces choses-là, c'est les montagnes russes.
Ouais, pour le coup, j'ai pas de bol. Alors, j'ai pas de bol. Je m'en sors bien, donc je vais pas me plaindre. Hein. Loin de là, ma société n'était pas en danger et j'ai pu rembourser mon banquier qui m'a prêté des sous pour acheter l'entreprise. Ça, ça apprend la vie. Hein. C'est un apprentissage en accéléré de toutes les situations possibles et inimaginables. Hein. Donc voilà. Mais oui, tout à fait. Ouais, c'est une période pas facile pour des entrepreneurs, c'est sûr.
Et l'état d'esprit de votre équipe, justement, de vos salariés, il est comment, cet état d'esprit?
Bah, c'est ce que j'essaye aussi de leur insuffler, c'est que on fait le dos rond et on aura des jours meilleurs. Hein. Moi, l'an dernier, j'ai donné des primes à mes salariés fin décembre que je ne pensais pas donner fin mars, quoi. C'est-à-dire que fin mars l'an dernier, c'était encore compliqué. Mais finalement, on fait un bon été. Et à la fin de l'année, j'ai dit vas-y, on donne des primes et on peut se le permettre. Donc voilà, ça peut tourner assez vite.
Hein.
Ouais, ça peut tourner assez vite. Donc, mais c'est vrai qu'on adapte l'activité. Hein. Moi, globalement, c'est quand même plus calme depuis un mois. La semaine prochaine, on n'embouteille pas, c'est-à-dire qu'on fait autre chose. Hein, et je fais récupérer des gars ou je les envoie en formation parce qu'on n'a pas besoin d'embouteiller, parce que l'activité est quand même plus faible depuis un mois. Hein, donc, aussi bien française qu'internationale. Hein, je pense que les chiffres du mois de mars ne vont pas être très bons sur la consommation, mais c'est normal. Hein, c'est un réflexe.
Voilà, on se réorganise au fil des jours, en fait, en fonction de la situation, des commandes. Hein, donc, il faut constamment être. Et en fait, il faut être particulièrement flexible.
Bah oui, mais je peux vous citer l'exemple de j'ai envoyé ma palette. Moi, j'ai envoyé une palette en Ukraine, pour tout vous dire, il y a un mois et demi. C'était un nouveau marché pour nous. J'ai discuté 15 jours avant l'invasion russe. J'ai discuté avec mon importateur ukrainien. Il habitait Kiev. Il habite toujours. En tout cas, je le souhaite pour lui. Il ne se doutait pas du tout qu'il allait se passer ça. Je veux dire, il commençait à prendre des photos de mes produits pour commercialiser et faire de la communication. Donc, il était loin de penser qu'il allait être impacté directement. Je pense qu'il savait que dans l'est de l'Ukraine, il y allait avoir des soucis, mais pas du tout à Kiev, quoi. Donc, c'est très difficile de prévoir tout à fait l'avenir sur des choses comme ça.
Ça permet de relativiser, effectivement, quand on échange comme ça avec son.
Globalement, tout à fait.
Ouais,
c'est-à-dire que. Voilà, moi j'ai échangé par mail. Bon, voilà, il termine son mail en disant, ça fait 5 jours que je dors dans un abri anti-bombe et que j'espère rester en vie. Oui, tout de suite, j'étais avec ma collègue, c'était la fin de journée, on s'est dit, on rentre chez nous et il y a quand même des choses plus graves que de pas forcément vendre une palette en Russie ou ailleurs, quoi.
En tous les cas, François Calando, on vous souhaite bon courage et on espère que très rapidement, vous pourrez retrouver votre rythme de croisière avec la cidrerie de la Brique. Et merci beaucoup pour votre témoignage.
C'est gentil à vous, merci. Bonne journée à tous.
Bonne journée à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après, de nouveau, sur Sud Radio, dans C'est ça la France, pour évoquer justement ces artisans face à la crise ukrainienne. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, notre émission spéciale qui donne la parole aux artisans face à cette crise ukrainienne. Je rappelle qu'aujourd'hui en France, l'artisanat représente 12% du PIB, 3,1 millions d'actifs, 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. J'espère que je ne dis pas de bêtises car nous sommes en ligne avec Joël Fourny, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat. Bonjour Joël.
Bonjour Nathalie.
J'espère que mes chiffres sont bons. Première entreprise de France, cesse de le rappeler. Alors, on est content de vous avoir en ligne parce que la situation est inquiétante. Hein. L'envolée des prix des matières premières, l'augmentation des charges, les tensions sur les trésoreries, l'approvisionnement des matières premières, on l'a dit, le coût de l'énergie, on peut le dire. Vous avez mené d'ailleurs une enquête sur ce sujet hein, pour avoir le point de vue et le ressenti des artisans. Quel est-il alors, ce ressenti ?
Oui, on a bien sûr été dans l'obligation de regarder un peu comment les choses évoluaient dans le secteur de l'artisanat et on a mené une enquête le 25 mars qui révèle que 62% des entreprises artisanales, des chefs d'entreprises artisanales, se disent directement impactés par le conflit russo-ukrainien. Donc ça veut dire que, vous voyez, le moral est quand même extrêmement touché, le moral des artisans. 11% estiment déjà que leur activité est fortement impactée aussi par la situation géopolitique. Donc c'est un secteur qui est, après cette crise sanitaire, qui avait retrouvé plutôt confiance et une vraie dynamique suite à la crise Covid. Aujourd'hui, on est effectivement impacté par 3 éléments majeurs, la hausse du coût de l'énergie, les difficultés d'approvisionnement et la baisse de chiffre d'affaires dans certains métiers. Notamment, on a quelques entreprises artisanales qui travaillent très directement sur les territoires concernés, qui peuvent être impactées directement.
Alors de quelle façon justement les chambres des métiers les accompagnent ?
Alors, bien sûr, il est complètement important que le réseau des chambres des métiers soit mobilisé. Hein. Ça nécessite de rassurer déjà, de pouvoir redonner confiance en l'avenir. Et puis aussi, dans le sens de mesurer aussi tous les éléments à mettre en œuvre pour permettre d'accompagner ces entreprises artisanales. Le réseau des chambres des métiers est désigné par l'État comme un interlocuteur de premier niveau auprès des entreprises. Donc, c'est bien sûr une cellule de crise qui s'est réactivée sur l'ensemble du niveau national, hein, avec une information qui est donnée précisément sur les aides, sur le plan de résilience, même si le plan va dans le bon sens. On considère qu'il faudrait qu'il soit amélioré et peut-être il n'est pas suffisamment, je dirais, prévu pour les artisans. Donc, il est important que nous puissions aussi porter cette parole auprès du gouvernement pour faire en sorte d'adapter ce plan résilience aussi pour les artisans.
Et je pense notamment à la transition écologique qui était déjà un point important, mais là qui devient primordial avec la hausse du coût de l'énergie.
Oui, bien sûr. Donc, la hausse du coût d'énergie, c'est extrêmement important. Chez un boulanger, évidemment, ça représente une part importante de la consommation au travers de l'utilisation du gaz. Hein. C'est un consommateur qui utilise à peu près 4,4% en moyenne de son CA pour cuire son pain. Donc, vous voyez, c'est un élément extrêmement important. Vous avez aussi la hausse des matières premières également, hein, qui peut avoir un effet extrêmement important sur le volume du chiffre d'affaires et donc peut jouer un rôle sur la marge. Donc il est aussi logique que nous puissions permettre de pouvoir faire en sorte d'avoir des aides particulières, à la fois des réductions sur le litre de gasoil, sur le coût de l'électricité, sur la valeur du gaz. Et évidemment, c'est des éléments qu'on doit apporter auprès du gouvernement pour qu'il y ait des mesures qui soient prises pour bloquer les prix, même voire à les réduire, ou en tout cas prendre en compte le fait de pouvoir accompagner ces entreprises artisanales par des mesures spécifiques pour permettre d'éviter les surcoûts. Vous avez quand même des entreprises qui peuvent passer d'un coût d'énergie qui était de l'ordre de 15 000 euros à 25 000 euros sur l'année. Donc ça représente une part importante de leur chiffre d'affaires.
On l'a évoqué avec François Calando juste avant vous, lui qui est dans la cidrerie, faire fabriquer une bouteille, ça monte à 1600-1700 degrés pour la faire. Donc étant donné qu'on consomme plus d'énergie, eh bien ça se ressent sur son chiffre d'affaires. Donc effectivement, il est important donc d'aider ses artisans. Et on évoquait aussi ce manque de visibilité. C'est ça qui est très pénible, hein, pour un chef d'entreprise et notamment d'une petite PME.
Oui, c'est ça qui est difficile. C'était la même chose au moment de la crise sanitaire, mais on avait quand même géré une consommation locale avec une maîtrise aussi au niveau local qui permettait d'avoir des mesures qui redonnent confiance aux entreprises artisanales. Là, on ne sait pas à quel point le conflit va être présent sur la durée. Et du coup, on sait très bien qu'une guerre en Europe n'est pas sans conséquence sur du long terme. Donc voilà, c'est compliqué, notamment quand on parle de problématiques énergétiques. Vous savez que l'approvisionnement de gaz vient aussi de ces territoires et de la Russie en particulier. Donc on n'est pas sans penser que on aura un impact sur le prix de l'énergie sur une durée plus longue que la période du conflit que l'on espère voir s'arrêter très vite. Et c'est là où on a une difficulté réelle, c'est que dans les mois qui viennent, on est un foutu capable de savoir comment les choses vont évoluer. Moi, je reste quand même extrêmement confiant et je voudrais redonner aussi un peu de confiance aux artisans. L'artisanat est extrêmement résilient, a notamment réaffirmé l'économie de proximité, la nécessité d'apporter un réel service en proximité auprès des consommateurs, auprès du rôle qu'elles peuvent jouer dans la dynamique territoriale. Donc je pense que les consommateurs sont sensibles à cela et donc feront en sorte de préserver aussi leur artisanat local.
Et consommer local, effectivement,
il faut être optimiste. Consommer local, consommer Made in France, etc. Je pense qu'on a des vraies valeurs à défendre. Et en tout cas, on a les moyens aussi de pouvoir surmonter une crise difficile. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un travail en parallèle qui soit fait pour éviter que les charges et les coûts des charges augmentent.
Merci beaucoup, Joël Fournier. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des métiers de l'artisanat. Merci pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne journée.
Merci, bon dimanche, au revoir.
Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio Cesse à la France avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors cette semaine, votre visite s'adresse spécialement aux gourmands et aux becs sucrés.
Ben c'est ça, ils trouveront leur paradis dans le petit village médiéval d'Olioul, dans le Var. C'est là que se trouve la maison Jonquier, qui fabrique depuis plus de 130 ans l'un des meilleurs nougats provençaux. Jonquier, c'est aussi une belle histoire de savoir-faire, transmise de génération en génération. Et Benoît Adé, qui a repris le flambeau, m'a raconté comment ça a commencé.
En fait, c'est une histoire qui a commencé avec mon arrière-grand-père. Bah, dans la pièce où nous nous trouvons, là, aujourd'hui, donc, où on fait aujourd'hui le nougat, mais où en 1885, on ne faisait pas exactement le même genre de produit, ça ne se mangeait pas très bien, c'était des bougies, puisque mon arrière-grand-père, il était cierger de son état.
Alors, comment on est passé des bougies au nougat ?
Ah bah, d'abord, c'est une première révolution technologique et industrielle, puisque, en fait... Quand vous fabriquez de la bougie, c'est très bien, mais lorsque vous avez l'électricité qui arrive et qui se développe dans les foyers, ben, il faut se réinventer. Et il s'avère que mon arrière-grand-père, en tout cas la légende, dit qu'il était extrêmement gourmand et curieux, même épicurien, épicurieux. Et il avait son ami pharmacien qui habitait juste à côté. Et ensemble, ils se sont mis à élaborer une recette de nougat pour répondre à la tradition des 13 desserts.
Alors, est-ce que c'est la même recette de nougat que vous fabriquez aujourd'hui dans cet atelier d'Olioul ?
C'est exactement la même. Exactement. On insiste bien là-dessus sur le pourcentage d'amandes. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est dans le respect de la recette qu'il avait imaginée en 1885.
Alors, petite colle, Thibault, quelle est la différence entre le nougat blanc et le nougat noir ?
Très bonne question, Nathalie. Eh bien, le nougat blanc a une durée de cuisson plus longue et plus tendre. Et pour la recette du nougat noir, délicatement caramélisé, eh bien, on écoute Benoît.
Donc là, on fait un premier mélange donc, de sucre, de miel, avec un mélange de miel d'oranger et de miel toute fleur. Je ne vais pas vous donner la répartition exacte de miel d'oranger et de miel toute fleur, puisque là, c'est vraiment notre recette.
Donc le secret de la maison Jonquier.
Voilà.
C'est un miel qui vient d'où ?
Alors, c'est un miel qui vient de Provence, voilà. Et donc là, ils sont dans le chaudron et ils vont monter jusqu'à 130 degrés, température à laquelle on aura suffisamment cristallisé le sucre pour qu'à froid, il puisse bien tenir le nougat.
Donc je vois ces chaudrons en cuivre, ce sont les chaudrons d'origine ?
Tout à fait. On a toujours travaillé avec les mêmes chaudrons. Deux, ce que me disait ma grande-tante, le plus jeune des chaudrons avec lequel on travaille aujourd'hui a 60 ans.
Donc suite de la préparation du nougat ?
Voilà, donc là on est arrivé à 130 degrés et on va se diriger vers un autre chaudron et on va verser cette pâte qui est aux alentours de 130 degrés. Après, on va tranquillement faire redescendre la température hein, de manière tout à fait naturelle et aux alentours des 90-100 degrés. Donc ça, c'est l'expérience du nougatier qui va parler. On va y ajouter 60% d'amandes. Donc là, c'est un chaudron de 15 kg. Donc on va rajouter 9 kg d'amandes torréfiées. Donc c'est là où le coup de geste du nougatier va avoir toute son importance puisque là, on va verser des amandes légèrement tiède dans un bain à 80 degrés et il faut vite enrober toutes les amandes et pour pouvoir bien le travailler, il faut sortir le nougat avant qu'il ait atteint 60 degrés. Sinon, on va avoir un nougat qui aura été dur à travailler ensuite dans les cadres. Voilà. Et ensuite, du coup, on va sortir le nougat dans des cadres. Donc, en fait, ces cadres, ils se présentent de manière très simple. C'est que vous avez une planche de bois. Ensuite, vous avez une feuille de papier, la fameuse feuille d'ostie. Vous savez, c'est la feuille blanche avec les croisillons. Ensuite, on met une feuille de papier et on va cadrer le nougat avant de le retourner. On va faire refroidir tranquillement le nougat et après, on coupera le nougat encore tiède. Parce que si je le coupe froid, il risque de casser.
Alors, vous êtes une entreprise qui est ouverte à la visite.
Tout à fait.
Est-ce que ce que vous le montrez aussi aux visiteurs qui viennent vous voir ?
Alors moi, je fais quelque chose que même mon arrière-grand-père ne faisait pas, puisqu'il faut savoir qu'au moment de la fabrication, mon arrière-grand-père, lorsqu'il préparait les recettes, il faisait sortir les salariés de l'atelier. Pour vous dire à quel point nous, on commet presque un grand sacrilège, puisque maintenant, non seulement on vous accueille, on vous offre une visite gratuite, on vous offre ce temps d'échange, mais en plus, lorsque vous venez dans nos locaux, vous voyez une fabrication en direct, vous voyez tout.
Alors, beaucoup d'auditeurs vont avoir envie de faire cette visite à leur tour, Thibault. Comment fait-on ?
Eh ben, c'est tout simple. Tous les renseignements sont sur nougat-jonquier.fr. Il faut savoir que la visite dure environ une heure. Et bien sûr, elle se finit par une dégustation.
Merci, Thibault.
Sud Radio CSA La France, avec Thibault le French Trotter.
Vous a été présenté par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
On arrive à la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.